Je m'appelle Didier. Mon épouse est décédée de maladie. J'ai toujours été convaincu que le temps ne suffirait pas à apaiser ma tristesse. J'ai cherché des ressources autour de moi pour traverser cette période. J'habite au Pays Basque. J'ai trouvé des appuis qui me permettent d'être là aujourd'hui, de parler devant ce micro pour partager mon expérience et vous encourager, pour vous aider à faire les premiers pas difficiles sur ce nouveau chemin que vous comme moi, vous n'avez pas choisi, mais aussi pour remettre en question des idées reçues et des tabous, pour vous faire rencontrer des personnes inspirantes qui peuvent être là pour vous aussi comme elles l'ont été pour moi. La perte et le deuil sont dans notre vie, inutile de se le cacher, on va en parler au contraire. Le deuil autrement, c'est une autre route que nous pouvons prendre ensemble. Je n'ai aucune connaissance professionnelle ni rien à vendre dans ce domaine. Si vous avez appuyé sur play pour ce podcast, félicitations, vous avez fait un premier pas. Venez avec moi, je vous emmène. Bonjour, alors pour ce premier épisode, si vous avez suivi notre numéro zéro, notre préambule, vous savez qu'on est toujours avec mon invité, Charlotte. Bonjour Charlotte.
Bonjour Didier.
Alors, donc on est sur cet épisode que j'ai appelé « Tout bascule » sur ce premier jour où effectivement on apprend où on vit le décès de notre proche. On peut être évidemment dans toutes les situations, on peut être dans un hôpital auprès de la personne, on peut être à la campagne, on peut être en voiture, dans un train, on peut être en train de courir, on peut apprendre ça au téléphone, on peut découvrir encore plus terriblement quelqu'un suicidé. Bref, j'ai du mal à imaginer toutes les situations, mais on est sur ce premier jour, c'est le titre de l'épisode, pour moi, où tout bascule, parce qu'en fait, tout simplement, la vie après ce jour-là, il n'est plus du tout la même qu'avant. Alors, un petit mot sur mon cas, voilà, on va commencer par mon cas personnel, et puis ensuite, on évoquera d'autres sujets. Moi, dans mon cas, je suis dans une institution spécialisée en soins palliatifs. Mon épouse est malade depuis assez longtemps. On est donc dans les dernières possibilités médicales et l'événement survient. Et bien sûr, j'y étais préparé. Et en même temps, ce que j'ai vécu, c'est que je ne m'y attendais pas. En même temps, je ne m'y attendais pas. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais on est là dans un environnement médical, il est minuit, tout le monde dort, ou presque, et dans cet environnement, en fait, on n'est pas seul, puisque très rapidement, quand le personnel est informé, voilà, vous appuyez sur la sonnette, le drame est arrivé, enfin le drame ou en tout cas l'événement survient. En fait, comme on est dans une institution spécialisée, dans mon cas, ça surprend personne puisqu'ils sont habitués à avoir des patients en soins palliatifs, donc qui sont au bout de leur chemin. Et donc, très rapidement, je dirais, il y a une armada de personnes qui est arrivée à minuit, un peu sortie de nulle part, j'étais surpris, pour tout de suite être dans une action très efficace, très concrète, très matérielle, alors que nous, on est dans le chagrin, la tristesse, on est là avec notre... En tout cas, moi, j'étais là avec mon épouse, j'étais seul. Donc, très rapidement, on vous éloigne de cette personne en vous disant, on va préparer la chambre, effectivement, puisqu'il y a du matériel, a été branché, etc. Donc, on va vous préparer la chambre, sortez, s'il vous plaît, monsieur. Et puis, ça va aller, ça, dans un quart d'heure, pourrait revenir. Et donc, déjà, on est pris dans un tourbillon, à la fois, moi, je suis encore avec mon épouse à 200%, elle est partie, en tout cas elle ne respire plus, et je me retrouve seul dans le couloir, avant que quelques minutes après on me dise « Monsieur, vous pouvez revenir, pas de souci ». Là je rentre dans la chambre, et je vois une chambre complètement nettoyée, aseptisée. Vous savez, quand on est à l'hôpital, on a des petites affaires personnelles, un bouquet de fleurs, une photo, etc. Voilà, tout a disparu. Tout est mis dans des plastiques, des grands sacs en plastique blanc. Tous ces petits objets, tout ça a été rangé. tout ça dans des poches qui vous sont présentées et on a mis à la place un décor aseptisé de petites fleurs en plastique parfaitement horrible. Hein. En tout cas, moi, quand je les vois, je trouve ça complètement inadapté, inadéquate. Le corps est mis dans une position un peu sacrée, les mains jointes, etc. Et puis tout d'un coup, voilà, on bascule dans une réalité qui moi déjà m'a un premier choc où j'étais encore complètement avec mon épouse, complètement dans cet amour inconditionnel là, qui était présent. Et tout de suite, il y a des obligations, il y a des choses. On vous met les pieds sur terre très rapidement. C'est assez violent. Voilà, le corps est mis dans un sac en plastique biodégradable. Voilà, on ne sait pas tout ça, mais on voit bien qu'il y a des choses qui se sont passées. Alors moi, il y a une première question, parce que, effectivement, dans mon cas, je ne veux pas faire une généralité loin de là, c'est un cas et on s'en sert pour évoquer ce sujet, mais dans mon cas, quand la personne est très en souffrance, que vous voyez que ce corps n'est plus en capacité d'accepter la vie telle qu'elle est, et que cette personne et tout le monde a souhaité qu'elle parte, et même elle d'ailleurs m'avait prévenu le matin, enfin bref, est-ce qu'on est vraiment préparé? Parce que moi j'ai l'impression que même en sachant ce qui allait se passer, même quelque part en le souhaitant, ben, je suis bouleversé par ce qui arrive et voilà quoi. Est-ce que donc première question Charlotte, est-ce que dans un cas comme
Oui.
ça on peut considérer qu'on peut être préparé ou est-ce qu'on subit un choc de toute façon?
Mais je crois que qu'elle soit préparée ou non, la mort est toujours traumatisante. Et tu le dis, il y a un bouleversement vraiment émotionnel intense quand la mort survient. On peut être préparé par une équipe soignante, par des informations, mais on est préparé à l'idée de la mort. Mais finalement, ça reste inédit. On n'a jamais éprouvé, on ne s'est pas entraîné à ressentir là ce qu'on va ressentir. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un bouleversement total. Et entre savoir que notre être cher va partir et le vivre vraiment dans son corps, dans sa chair, à un moment peut-être aussi qu'on n'a pas prévu. Je veux dire, la mort parfois surprend ou se fait attendre aussi. Donc là, il y a une différence. Et entre le savoir et le comprendre tout de suite, il y a un temps aussi. Il y a un temps qui est long et c'est d'ailleurs le travail du deuil. Donc
Ouais,
on
moi
peut être un
c'est
peu
ouais.
préparé, mais effectivement, quand on le vit, les choses sont différentes. Ça reste toujours un choc, un traumatisme, une sidération. Et comme tu dis, tout de suite, on ressent un peu un. Là, dans l'exposé que tu fais, on sent que tu, finalement, là, le travail des soignants autour de la personne qui est morte te dépossède un peu. Et ça te met en miroir de ce qui va arriver, le fait que finalement, vous n'allez plus jamais vous voir ensuite.
Ouais.
Ça, on y viendra dans les épisodes d'après, puisqu'il y a tout un tas de rites, des obsèques qui vont aider, qui vont faciliter la prise de conscience. Mais c'est vrai que là, c'est un premier arrachement, quoi. Hein? Et
Ouais.
donc, tu reviens dans la chambre, il n'y a plus les objets personnels. Alors ça dépend quand même des institutions où sont accueillis les gens. Hein? Chaque équipe aussi travaille à comment s'occuper du corps. Il y a des gestes techniques à faire pour la conservation du corps. Et chaque équipe s'accorde aussi à des détails qui leur paraissent quand même, si je peux dire, chaleureux, enfin, qui permettent quand même de revenir à son défunt. Par exemple, les mains effectivement sur le drap pour que la personne endeuillée puisse quand même avoir un contact avec la personne qui vient de décéder.
Oui, c'est vrai que je suis un peu sévère dans ma présentation parce que je ne m'y attendais pas encore une fois à avoir cette nouvelle vision. Je m'éloigne 10 minutes, je reviens. Il y a
Tout
quelque
à
chose
fait.
de mise en scène
Ouais.
qui me
Mais c'est
perturbe.
glaçant, c'est glaçant. Je crois que il y a des gens qui n'arrivent pas à rentrer dans la chambre, il y a des gens qui vont y rentrer grâce peut-être à un soignant qui va les y accompagner. Il y a des gens qui vont rentrer, qui vont sortir, qui vont re-rentrer. Il y a des gens qui rentreront dans la chambre et qui ne pourront plus sortir. Tout est, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réagir ou d'être là. En tout cas, il est clair que dans tous les cas, il y a un bouleversement intense. Et j'ai aussi vu des soignants et entendu des soignants me dire, mais oh, j'avais les larmes au bord des yeux, j'essayais de pas pleurer, etc., pour accompagner. Mais bon, voilà, c'est un moment bouleversant pour tout le monde et encore plus, bien sûr, pour l'endeuillé, on est d'accord.
C'est vrai qu'intellectuellement, on se dit oui, ça va arriver,
Ouais.
mais comme tu dis, physiquement, là, il y a quelque chose que l'on vit, et cette idée, ce concept, auquel d'ailleurs on ne veut pas, en fait, moi, je voulais pas, enfin, quelque part, je ne veux pas qu'elle
Oui,
parte, je ne veux pas que
oui.
ça arrive, donc, même si je me dis, c'est nécessaire, etc., y a cette action, cet événement qui arrive, ce phénomène.
Quand il y a eu de la souffrance dans un parcours de maladie, on peut éprouver à la fois du soulagement à ce que l'autre finalement meure parce que les souffrances cessent, mais cette sensation de soulagement est finalement très culpabilisante. On se dit comment je peux être soulagée alors même que l'autre est mort. Et parfois, cette culpabilité devient même dépréciogène. On s'en veut d'éprouver ça. Hein, et non pas qu'on souhaite la mort de l'autre, mais on souhaite que effectivement elle soit délivrée là de souffrance. Et de toute façon, la mort était inéluctable. Mais effectivement, en psychologie, on parle d'effraction du réel. C'est-à-dire que la mort vient vraiment choquer. On ne peut pas penser, on ne peut pas mentaliser ce qui est en train de se passer. C'est vraiment là dans le corps, dans les émotions, dans les sensations. En fait, ça dépasse nos capacités d'entendement. Et d'ailleurs, psychiquement, on se protège. On a des mécanismes de défense et même on peut entendre dire, mais c'est pas possible. Si par exemple on a une annonce par téléphone, mais non, on n'y croit pas là d'emblée. La mort, quand elle survient, nous surprend toujours. Et effectivement, on résiste un peu à l'entendre parce qu'on ne peut pas l'entendre, effectivement. Il va falloir un temps pour mentaliser, pour prendre conscience.
Alors justement, deuxième cas, en dehors du cas où effectivement, comme moi, on était, entre guillemets, sur cette trajectoire, il y a aussi bon nombre de personnes qui ne sont pas présents auprès de leurs proches quand ils partent. Ils apprennent ça au téléphone, les pompiers appellent, votre fils a eu un accident de voiture, certains crises cardiaques, je le disais, pendant une banale balade, d'autres apprennent ça alors que leur mari est en déplacement à l'étranger, à l'extérieur. Là, c'est hyper violent, enfin, j'imagine. Comment donc, tu as commencé à répondre, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Comment on peut accepter quelque chose comme ça?
Oui, je crois qu'on ne l'accepte pas. Et dans le cas, par exemple, de suicide ou de mort très violente, on peut considérer que c'est des deuils à haut risque. Hein. C'est-à-dire que là, on va pas parler plus du suicide parce qu'il y aurait beaucoup, beaucoup à dire. Mais la personne, en tout cas, aura besoin que l'annonce soit faite de façon assez simple. Et d'une certaine façon, c'est-à-dire aujourd'hui, on conseille quand même, on forme les gens à comment annoncer. Bien sûr, ça n'enlève pas le fait que l'autre est mort, mais on peut quand même annoncer d'une certaine façon, de façon un peu prévenante, ou quand il y a des enfants, que les enfants soient tous réunis au moment où on les annonce, peu importe l'âge. Ce qui est important, c'est qu'ils puissent entendre ensemble. Ils savent qu'ils ont vécu cet événement ensemble. Quand on est seul, effectivement, et qu'on apprend ça, c'est un choc. Effectivement, qu'il y a un risque. Il y a un risque. L'important, après, va être de pouvoir voir le corps, je crois. Ça, on s'est beaucoup interrogé sur l'importance de voir pour aider à commencer son travail. Donc effectivement, les gens qui sont loin ou les gens à qui on n'a pas dit, etc., racontent ça, qu'effectivement, on ne leur a pas permis d'être là et de voir. Et je crois que ça, c'est une question très très importante. Donc oui, il y a le choc. Et après, comment je peux aller, voilà, comment on me permet d'aller voir celui qui est mort?
Et tu disais qu'il y a des mécanismes d'autodéfense un petit peu, on va dire non, c'est pas possible, il n'est pas mort sur la route.
Oui, on a des mécanismes de défense qui nous permettent, c'est comme une sauvegarde en fait, ça nous permet finalement là de pas mourir, de pas s'anéantir dans quelque chose d'anéantissant. C'est-à-dire qu'on va être dans un profond désarroi, On peut bien sûr flancher très fort, mais effectivement que psychiquement, donc ça c'est des mécanismes qui se mettent en place automatiquement, inconsciemment, et effectivement que dans ces cas-là, ça va être le mécanisme de déni, c'est pas possible. Hein. Ou alors un peu après quand le temps passe, de trop rapidement se mettre au travail, comme si de rien n'était, mais tout ça est une apparente indifférence, je veux dire, à l'intérieur, ça souffre, hein, ça crie. Et effectivement que les gens vont exprimer les choses de façon différente. Il y a des gens qui vont hurler, il y a des gens qui vont crier à l'intérieur, il y a des gens qui vont pleurer sans pouvoir s'arrêter, il y a des gens qui ne vont rien ressentir.
Ah oui.
Voilà, donc tout ça, tous ces mécanismes-là sont des sauvegardes ou des voies de dégagement possibles. Il y a des gens qui vont ressentir des choses dans leur corps sans pouvoir dire quelque chose. Voilà.
Et tout
Il y a
est
toute une spirale.
et quelque part tout est juste en tout cas pour la personne quoi. On n'a pas
C'est le vécu
ouais.
humain, c'est un bouleversement émotionnel et chacun va le vivre en fonction de ce qu'il est, de comment il apprend, de là où il est, de quel âge il a,
Alors justement,
et de la nature du lien qui l'unissait aussi à l'autre.
et oui, bien sûr. Et j'avais une question parce que c'est arrivé à quelqu'un que je connais bien. Voilà, il était petit, sa sœur décède, on ne lui dit pas. Alors comment est-ce qu'on a les enfants, comment tu dis, bah oui, il faut leur dire que comment on fait aux enfants? Il faut leur dire, pas leur dire, attendre, parce qu'ils sentent bien, les enfants, qu'il s'est passé quelque chose de grave dans la maison, de toute façon, quand il y a un coup de fil, et que, ils sentent bien quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire?
Oui, comment on fait avec les enfants? Ça, c'est une question très importante. Souvent, on a un peu. À l'époque, on veillait les morts à la maison, donc les enfants ont participé à tout ça. Mais de plus en plus, effectivement, on a un désir de protéger l'enfant, finalement, mais on ne le protège pas du tout en l'écartant de tout ça, au contraire. Donc, ce qui est important peut-être de savoir, c'est que l'enfant a une représentation différente de la mort en fonction de son âge aussi. C'est-à-dire qu'avant 6 ans, quand l'enfant, en tant que quelqu'un est mort, il n'a pas accès à l'irréversibilité et l'universalité de la mort. C'est-à-dire, ah bon, il est mort, mais il revient quand? C'est-à-dire, il ne peut pas comprendre, parce que son cerveau n'est pas assez mature, que c'est pour toujours. Et à l'universalité, c'est-à-dire qu'il ne. Par le fait que cette personne soit morte, il ne peut pas se représenter que de toute façon la mort fait partie de la vie et que tout le monde va mourir. Hein? Et à partir de 6 ans, par contre, le cerveau est un peu plus mature et comprend qu'effectivement, quand on est mort, on ne revient pas, que effectivement, c'est l'histoire de tout le monde, etc. Mais pour nous, adultes, c'est très difficile de parler de la mort à un enfant parce que c'est aussi considéré que lui-même, petit, il est mortel. Et si nous-mêmes, nous sommes bouleversés par la personne qui est morte, comment se sentir soutenant avec son enfant? Vous voyez? Donc ça, c'est, je pense qu'il faut décider du temps. On a le droit de prendre un peu le temps, de décider de quand c'est qu'on va le dire à l'enfant. Et
En fonction de son âge, alors, aussi. Non.
c'est-à-dire en fonction de son âge, il comprendra différemment les choses. Il n'aura pas accès à toutes les représentations concrètes sur la mort. Mais par contre, on va leur annoncer ensemble. Parce que c'est important, eux, dans leur vie qu'ils sachent que là, ils l'ont entendu ensemble. C'est-à-dire que si un jour ils ont envie d'en parler, ils étaient ensemble. Ça crée une forme d'alliance, de soutien dans l'épreuve. Et donc un enfant, ce qu'il a besoin, c'est que quelqu'un puisse lui dire simplement, avec les mots justes et vrais. C'est-à-dire, cette personne est morte. Parfois, l'enfant a pu être accompagné avant, parfois non. Et donc là, on peut répondre un peu aux questions de l'enfant. Et souvent, nous sommes très défensifs pour faire ça avec les enfants. Donc on va dire, bah, il est parti au ciel, il dort, c'est comme quand il dort, il ne souffre plus. Je crois qu'il ne faut pas employer trop d'images, en fait, parce que l'enfant n'a pas accès au second degré, déjà, enfin en fonction de son âge. Et ça nous aide plutôt à nous. D'utiliser des images comme ça, que ça n'aide l'enfant. L'enfant, il a besoin de savoir une vérité, et puis il va voir effectivement qu'il est normal de pleurer là. Voilà, il ne faut pas cacher les émotions. Il est normal de pleurer, et quand on aime quelqu'un, on le pleure. Finalement, on rend aussi une certaine dignité à l'autre, et quand on meurt, et bien finalement, l'enfant, il voit qu'on est entouré. Donc c'est un peu moins angoissant quand même, cette idée de mort. Voilà, il y aurait tant de choses à dire, mais effectivement, c'est une question importante. On leur doit une vérité qui leur appartient. Et ensuite, on le verra peut-être dans les épisodes plus tard, mais on peut leur proposer. Les enfants, ils créent. Ils n'ont pas accès à l'élaboration. Donc, ils vont dessiner, parfois, ils vont proposer d'amener, oui, un dessin, à la cérémonie. Donc, les enfants ont cette capacité aussi à créer pour
Et on peut les faire participer
rendre
justement. Tu dis amener
possible.
un dessin à la cérémonie.
Bien sûr, bien
Ouais.
sûr. Bien sûr, ils peuvent venir voir le mort, tout à fait.
Ouais. D'accord. Ça, on va en parler parce que
On en parlera
j'ai
un
un
peu plus
petit.
tard,
Ouais,
oui.
j'ai un sujet là-dessus. Alors, ce premier jour, voilà. Tout bascule. Et puis, y a ces questions des fameuses phases dans lesquelles on commencerait à entrer. Alors moi j'ai un souci avec ces fameuses phases puisque je ne m'y reconnais pas, donc le déni, alors je crois tu me corrigeras, déni, marchandage, colère, acceptation, etc. Donc moi personnellement je ne me retrouve pas et je considère que si la première phase est le déni, donc je refuse, je considère que, ayant vu mon épouse qui souffre terriblement et elle-même souhaitant partir et le décidant, je ne peux pas considérer que quand l'événement se produit, je ne peux pas être dans le déni. Je peux pas être dans le déni. Je suis au contraire, je suis déjà, peut-être pas l'acceptation, mais en tout cas, c'est quelque part un soulagement. Donc je peux pas être dans la colère. En tout cas, j'y suis plus depuis longtemps. Et je peux pas être dans le déni, non, parce que cet événement, finalement, on était d'accord. Et c'est plus une libération, quelque part, tu disais tout à l'heure, dans ce cas-là. Donc ces fameuses phases dans lesquelles on devrait tous passer, moi, j'ai pas cet avis-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, sur ces phases et l'obligation entre guillemets, enfin moi j'ai pas envie d'être mis dans des cases qui me correspondent pas. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là de ça?
Oui, c'est difficile d'entendre parler de phase quand on souffre. On n'a pas envie de nous dire comment on doit ressentir les choses quand quelqu'un de proche est mort. C'est-à-dire que moi, je sais ce que ça fait, je sais ce que je ressens, c'est moi qui l'ai vécu et on n'a pas envie d'être bloqué dans des phases. Voilà, mais tout ça renvoie aussi une certaine forme d'ambivalence. Après, là, on reste sur le moment où tout bascule. Quand tout bascule, effectivement, qu'on va pas vivre ces phases. Hein. Ces phases, c'est vraiment après le où tout bascule, on a quand même conceptualisé par les témoignages aussi, par ce qu'on voit, qu'il y a peut-être, on peut s'accorder sur trois grandes phases du travail de deuil. C'est-à-dire que après, effectivement, les obsèques, etc., va commencer là, le temps où tout bascule. Ce qu'on aborde aujourd'hui, c'est vraiment le temps du choc. Hein. Donc,
Ouais.
effectivement, parfois, on est plus ou moins dans le déni en fonction de comment on a été préparé, du soutien que l'on a, etc. Après, on est assez clivé face à l'idée de la mort, c'est-à-dire, oui, j'accepte avec elle de faire ce chemin, on est séparés, elle est morte, et voilà, on s'est préparé à ça. Et en même temps, comme tu le disais tout à l'heure, on est clivé, on n'a pas vraiment envie, en fait, oui, mais, hein, on est ambivalent. Hein. Et donc, pour reprendre les phases du deuil, ensuite, donc il y a cette phase de choc, de sidération, où on va mettre en place des choses pour nous sauvegarder, pour que pas à pas, on accepte un petit peu que l'autre ne soit plus là. Et puis après, il va y avoir une phase dépressive qui va être quand même assez longue, bien évidemment, en fonction des individus. Il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre, c'est-à-dire il y a des gens qui vont faire des allers-retours, hein? Donc, et
Oui,
dans
moi
la phase
je.
dépressive, il peut y avoir des moments où je ris avec mes amis, où là je me sens bien. Hein. Donc, mais il y a quand même une phase dépressive qui est nécessaire, c'est-à-dire que quand il n'y a pas eu cette phase dépressive, ça interroge quand même, c'est-à-dire on se dit, mais où c'est que la personne vit la perte? Quand on perd quelque chose, on pleure, ça nous, hein, il y a quand même une tension, quoi. Donc là, on perd un être cher, donc il y a vraiment l'expérience de la perte. Et donc dans cette expérience de la perte, on va vivre plein de sentiments. On peut vivre des sentiments d'abandon, on peut en vouloir à l'autre de nous avoir abandonnés, s'en vouloir à soi-même de penser que l'autre nous a abandonnés alors même qu'il a souffert. On peut avoir une très grande phase de tristesse, ça, les gens l'évoquent beaucoup. Ça, elle me manque, c'est le manque, quoi, c'est le vide sidéral, quoi. Comme si finalement une partie de nous était mort avec l'autre, hein. Et d'ailleurs, les gens qui ont une relation extrêmement fusionnelle sont très en danger, d'ailleurs, hein. Et donc, il y a tous ces sentiments-là qui empruntent même des symptômes psychopathologiques, hein. Les vécus, ils sont très intenses, hein. Très, très intenses. Et pourtant, c'est le chemin normal. On pleure ce qu'on perd. C'est ça qui va nous permettre d'avancer. Donc, il y a la perte et il y a l'expérience de l'absence. Voilà ce qu'on dit. Elle me manque, c'est le vide. Je suis à la maison, j'entends plus la voix. Qu'est-ce que je fais, hein? On est comme amputé. Et ensuite, il y a la dernière phase où on retrouve finalement, alors ça peut être la phase soit de l'acceptation, soit de l'apaisement, enfin on peut y donner le mot qu'on souhaite. C'est là où on entend que finalement le travail de deuil se fait bien, c'est-à-dire qu'on retrouve un élan vital. C'est-à-dire que toute l'énergie que j'avais mise avec mon proche et dont j'ai dû me détacher un petit peu parce que l'autre n'est plus là, eh bien je peux réinvestir une énergie à me continuer, à réinvestir d'autres choses. Non pas en opposition à la personne que j'ai aimée, je ne l'oublierai pas, bien évidemment, mais je peux me continuer, réengager de l'énergie dans autre chose. Voilà. Et donc ça, c'est la phase d'apaisement ou d'acceptation.
Oui, alors ça, on va l'évoquer évidemment dans les futurs épisodes. Là, on est dans ce jour,
Oui.
ce premier jour, mais c'est vrai que je voulais revenir là-dessus, mais on aura l'occasion d'approfondir un peu tout ça. Ce premier jour, moi, j'ai le sentiment, encore une fois, parce que je veux dire, les premières 24 heures, on commence à vous dire des choses qui sont très matériel. Le corps ne peut rester là que jusqu'à midi. Appeler les pompes funèbres, prendre rendez-vous, etc. Donc on est confronté à une réalité des obligations, là pour le coup, sociales, matérielles, légales. Hein, tout de suite, là, ça n'attend pas. Hein, et donc on est dans cette réalité. Et en même temps, à titre personnel, ben, on est dans cette tristesse, ce bouleversement, ces émotions, etc. C'est vraiment un tourbillon qui nous embarque là, parce que là aussi, bah, on n'est pas tous capables d'être à la fois de répondre poliment à la personne qui vous dit un certain nombre de choses, très, très, très froidement, et puis à la fois être dans son émotion et pleurer, etc. Donc ce premier jour, il est vraiment nourri de plein de choses opposées, ambivalentes. Enfin, en tout cas, on est percuté de plein d'émotions différentes et aussi on gère, voilà, il faut gérer très concrètement des choses pas du tout amusantes, quoi.
Et souvent, c'est une phase d'ailleurs où les gens finalement gèrent très bien, s'accordent à avoir une volonté de bien accompagner le corps, hein? C'est-à-dire que parfois il y a un souhait de faire appel à tel vêtement, on va commencer à penser la cérémonie, et effectivement qu'on est un peu comme dans un état second, ça paraît impensable finalement de faire ce que je suis en train de faire.
Ouais.
C'est comme dissociant, quoi. Il y a quelque chose et en même temps pas une satisfaction à le faire, mais où là encore on a quelque chose à jouer pour l'autre, et donc on le fait effectivement jusqu'au bout. Et je pense que c'est extrêmement important, c'est des moments aussi qui nous permettent d'apprivoiser un peu l'absence, et en même temps pour l'endeuiller, de pouvoir accompagner avec dignité la personne qui est morte. Mais oui, c'est des moments extrêmement déstabilisants. Parfois, les gens se font accompagner parce qu'ils ne savent plus comment répondre aux questions. Mais souvent, quand même, les gens racontent, quoi. Oui, en fonction de ce qu'il était, j'avais à cœur que ça oui, ça non. Hein? Il y a quand même des décisions qui sont très importantes à prendre, et
Oui, et puis
les
assez
gens le font, c'est
rapidement.
très important.
Et moi, en ce qui me concerne, j'avais le corps de mon épouse que je ne voulais pas quitter. Je ne voulais pas
Ouais.
qu'elle soit brinque-ballée à droite à gauche sans que je sache où, ni pourquoi, ni comment. Donc je ne voulais que personne n'entre dans la chambre, etc. Alors il y avait ses enfants qui étaient à distance, où on en parlera l'épisode prochain.
Je pense que c'est un
Et
temps où il faut prendre le temps.
on se regarde faire et on se voit effectivement aller appeler les pompes funèbres,
Oui.
prendre rendez-vous, commencer à dire mais choisir la couleur du cercueil, etc. Tout un tas de
C'est
choses
insensé,
qui
oui.
sont ouais, complètement choquantes quoi et enfin choquantes. Et en même temps, oui, on a un
C'est
devoir.
impensable, c'est-à-dire c'est impensable et en même temps la réalité. Là, il y a bien une différence entre une réalité physique, le corps n'est plus animé, la personne est morte, et en même temps, moi je suis attachée. Il y a peut-être 1 heure, j'étais encore là avec elle. Effectivement, que c'est un temps très très particulier. Ouais. Et du coup, c'est important dans ce temps-là de pouvoir, oui, s'autoriser à voir l'autre, à être avec l'autre, à le toucher, parce qu'après, les liens, ouais, les liens du toucher,
Ouais,
vont être rompus.
tout à fait. C'est
Ouais.
donc dans
Ça
notre
bascule, c'est ce que tu dis.
deuxième épisode, on verra donc le deuxième épisode, c'est le deuxième jour jusqu'au funérailles, jusqu'aux obsèques, on abordera ces questions-là. Alors j'ai une autre question plutôt qui par rapport à ce départ, en fait, moi j'ai avec mon épouse, quand effectivement elle est partie, on va dire ça comme ça,
Oui.
et ça m'a plongé dans quelque chose de plus grand, c'est-à-dire, mais où est-elle partie, et je dirais spiritualité entre guillemets, mais en tout cas, pour moi, elle était très présente dans le cœur, mon cœur qui était grand ouvert sur l'univers, sur là où elle était, parce que l'amour que l'on a pour quelqu'un, il ne disparaît pas, et au contraire, il prend une autre dimension beaucoup plus universelle, en fait. Et donc,
Oui.
votre mari, votre femme, votre enfant, il est partout, il est là, en tout cas, sur ce premier temps, il n'est pas éloigné, il est tout proche. Le corps, c'est une chose, mais l'amour et la personne va être là. Va prendre une place énorme, et d'ailleurs je le dis à qui veut l'entendre que effectivement quand la lumière s'éteint, l'amour c'est vraiment la seule chose qui reste et qu'il faut cultiver ces liens entre nous. Donc bref, l'amour il a plus la direction, il a plus ce corps, en tout cas cette
Oui.
personne physique, mais il est dirigé vers quelque chose de plus grand. Et donc spontanément, enfin ça doit tous nous amener à la question de la vie après la mort, qu'on soit chrétien ou autre, il y a quelque chose après, c'est pas possible que ça disparaisse. Et donc, est-ce que c'est l'occasion, en tout cas pour moi, pour d'autres, c'était l'occasion d'avoir une ouverture vers une conscience de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui nous dépasse, qui nous inclut tous. Et pour moi, c'était aussi une porte nouvelle qui s'ouvrait finalement, en tout cas beaucoup plus puissante avec ce départ, quoi.
Et oui, où va-t-elle, où est-elle? Oui,
Et elle est quelque part, elle n'est
c'est
pas
des
nulle
questions
part,
que
quoi. C'est ça.
les gens se posent, mais les gens ou les cultures vont y répondre de différentes façons. On n'a pas finalement de représentation absolue de ce qu'il y a après la mort. On a quelques témoignages de gens qui sont revenus de situations de coma ou assez important, mais finalement on ne sait pas. Donc chaque culture ou chaque personne peut créer et doit créer ou inventer sa représentation, hein? Donc en fonction de si on est athée ou non, les choses vont prendre des trajectoires différentes, c'est sûr. Oui.
Mais on est quand même plongé là-dedans, dans cet univers, dans quelque chose de plus grand. Enfin, il me semble, moi, ça me paraît.
En tout cas, c'est quand tu dis l'amour, en fait, l'autre n'est plus là, je ne peux plus, comment dire, mon amour ne se matérialise plus là, vers ce corps, etc. Donc, effectivement, qu'on cherche, et ça, c'est très fréquent, les gens en parlent beaucoup, c'est-à-dire qu'on cherche des détails aussi, on s'ouvre au plus grand, effectivement. Et l'amour est toujours là. Donc effectivement, quand on cherche, on ne veut pas totalement aussi être séparé entièrement, vraiment, de l'autre. Et d'ailleurs, les gens racontent que ils entendent encore la voix dans la maison, par exemple, comme si l'autre était là. Ou alors, je me rappelle, on se raccroche à certains détails aussi. Ça, je crois que ça nous aide aussi, mais c'est peut-être vrai. En fait, on ne sait pas. On a chacun le droit de créer son propre savoir avec ça. Et on n'a pas à juger de si c'est vrai si ce n'est pas vrai, pardon. Mais les gens ont besoin de faire vivre leur attachement. D'ailleurs, les gens gardent souvent un objet important ou pour dire une petite confidence personnelle. Ce qui est drôle quand même, on s'est rencontrés au théâtre et on jouait un rôle ensemble. Ton personnage s'appelait Christian et moi, mon père qui est décédé s'appelait Christian. C'est quand même fou. Et donc forcément, il y a une part de moi, ma part adolescente, qui se dit oh, encore un signe, je dois y aller, je dois répondre à ça pour continuer mon chemin de deuil. Et puis en même temps, il y a une autre part de moi qui me dit que c'est le pur hasard. Hein? Et c'est comme ça, je me rappelle aussi d'une patiente, un jour on était en train de parler de sa sœur qui était décédée, on avait avancé, on avait parlé beaucoup de sa sœur, de comment elle avait ressenti les choses, comment elle faisait vivre aujourd'hui son amour malgré qu'elle ne soit plus là. Et puis là, tac, un papillon rentre dans le bureau. Ça n'était jamais arrivé, voilà, on a eu une petite pensée chaleureuse et souriante en se disant, est-ce que c'est elle qui fait
Est-ce que c'est
signe?
un signe? Oui.
Voilà.
On en parlera des signes parce
L'idée,
que,
c'est
ouais.
qu'on ne va pas se raccrocher éperdument à ça. Hein. D'ailleurs, il faut faire attention. Il y a des gens qui l'ont très bien compris pour marchander
Des prestations, des
des prestations à
accompagnements,
des personnes
ouais.
extrêmement vulnérables. Donc, bien
Ouais.
évidemment, ce n'est pas ce que je dis là. Mais effectivement, on peut créer chacun. Ces représentations et puis on a le droit effectivement de faire vivre cet amour autrement. Ouais.
Bon, bah écoute, moi il me semble en tout cas que, et c'est très clair que l'amour avec un grand A est vraiment fondamental dans notre vie. Et moi j'encourage effectivement tout le monde à le cultiver. C'est pas toujours si évident, mais ça nous embrasse de façon bien plus importante que ce qu'on peut penser, je pense. Donc voilà, ça c'est mon avis. Et encore une fois, très humblement, ce n'est que mon expérience. Bon, on va conclure sur ce premier épisode. Donc le jour où tout bascule, moi j'avais envie de dire aux gens, effectivement, par rapport à ce que tu disais, c'est que dans ce cas-là, toutes les réactions sont bonnes, acceptables, et qu'il ne faut pas peut-être... Voilà, juger les gens qui ont fait ou qui n'ont pas fait, ou ceux, comme tu disais, il y en a certains qui vont rester dans un mutisme absolu, d'autres qui vont hurler, se rouler par terre, etc. Tout est bon, tout est juste finalement dans ce premier jour qui est vraiment un chamboulement. Et donc, chacun doit faire au mieux, en tout cas fait au mieux, puisqu'il c'est pas qu'il doit, c'est qu'il est instinctivement voilà, face à quelque chose et il
Il est
réagit au mieux, quoi.
fracté, oui, il y a un bouleversement qui s'exprimera différemment. Après, il faudra veiller sur le chemin à ce que les choses se continuent.
Ok, bah écoute, merci Charlotte pour ce premier épisode. Toujours aussi intéressant de partager tout ça avec toi. Et je te dis
Merci à toi, Didier.
à
Ouais.
bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode. À vous tous, je vous dis, la vie est là, profitez-en. Vous êtes capable de traverser. Et surtout, cultivez l'amour, c'est le plus important. À bientôt.
Et à mon amour, sommet des villes, plus de parfums que d'épines, puis tout qui est à sa place, qui est à sa place.